Bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast qui s'intéresse cette fois-ci au chapitre L'Europe des Lumières. La première partie du cours s'intitulait Le triomphe des sciences. Il s'agissait de voir pourquoi et comment les découvertes scientifiques se multiplient-elles au XVIIIe siècle. Pour cela, nous avions pris l'exemple du couple Lavoisier. Le couple Lavoisier est une bonne étude de cas pour évoquer les progrès de la science au XVIIIe siècle. En effet, ils utilisent des instruments nouveaux pour leurs expériences, par exemple le gazomètre à mercure, les tubes à essai ou le ballon pour l'étude des gaz. La plupart de ces instruments, ils les inventent et ils les font fabriquer pour faire des analyses de plus en plus précises. Ils utilisent de plus une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode expérimentale. Elle consiste à faire des expériences, puis grâce à l'observation et à l'analyse, cette méthode permet de valider des hypothèses. Et enfin, les Lavoisier font faire de nombreuses découvertes très importantes. Ils sont en quelque sorte les inventeurs de la chimie moderne. Grâce à leurs expériences, ils ont découvert par exemple les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux, ainsi que la composition de l'atmosphère. Le couple Lavoisier n'est qu'un exemple, mais en fait ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que les XVIIe et XVIIIe siècles sont vraiment des siècles de découvertes scientifiques majeures. On aurait pu prendre d'autres exemples, hein. Par exemple la découverte de la gravité par l'anglais Newton, ou les prémices de la botanique par le français Buffon. C'est lui notamment qui va être à l'origine de la classification des espèces animales, et il va avoir beaucoup d'influence sur, par exemple, Darwin au XIXe siècle. Ce qui explique cette multiplication des découvertes scientifiques au XVIIIe siècle, c'est tout simplement l'utilisation de méthodes nouvelles fondées sur l'expérience. Et donc c'est cette méthode expérimentale dont on a parlé quand on a étudié le couple Lavoisier. C'est cette méthode qui est dorénavant la seule qui puisse permettre d'établir de véritables vérités scientifiques incontestables. Nous nous sommes ensuite intéressés à une deuxième partie intitulée « La révolution des Lumières ». Alors, on avait commencé par une forme de petite introduction pour rappeler un certain nombre de fondamentaux. Notamment le fait que la France au XVIIIe siècle, comme la plupart des pays d'Europe, est une monarchie absolue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que le roi détient seul tous les pouvoirs et qu'il affirme tenir son pouvoir directement de Dieu. Il peut par exemple ainsi enfermer n'importe quel opposant juste en envoyant ce qu'on appelle une lettre de cachet. L'autre élément à bien avoir en tête avant de commencer cette partie, c'est que la société de l'époque est une société d'ordre, ce qu'on a appelé la société d'Ancien Régime. Et c'est ainsi depuis le Moyen-Âge. En fait, il y a les deux premiers ordres de la société, la noblesse et le clergé, qui sont deux ordres privilégiés. Ils sont minoritaires en nombre, mais ils dominent le troisième ordre, le tiers-état. Le privilège le plus important étant que la noblesse et le clergé ne payent pas d'impôts au roi. Alors ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que là, dans cette partie, nous allons voir comment les philosophes des Lumières vont critiquer ces deux idées établies, c'est-à-dire cette société d'ordre et cette monarchie absolue. Pour entrer dans ce thème, nous avons choisi de prendre l'exemple de Diderot et de l'encyclopédie. Diderot est donc un philosophe des Lumières, et nous voyons, grâce au document que je vous avais distribué, que ce philosophe a des soucis avec la police royale et aussi avec la justice royale, puisqu'il a été enfermé dans la prison de Fontainebleau pendant quelques mois, en 1749, à cause de ses idées. Dans ses différents ouvrages, Diderot va en effet s'attaquer à la monarchie absolue, et il va également critiquer la religion en appelant au règne de la raison et de la science. Associé au mathématicien d'Alembert, Diderot est particulièrement célèbre grâce à la publication de son ouvrage majeur, l'Encyclopédie. L'objectif majeur de cet ouvrage est de réunir tous les savoirs de cette époque. Entre 1751 et 1772, 28 volumes vont être publiés par Diderot et d'Alembert, 11 volumes de textes et 17 volumes d'illustrations. L'encyclopédie va être un grand succès pour l'époque, puisqu'on estime qu'environ 25 000 exemplaires vont être vendus à travers toute l'Europe. Nous avons consacré l'heure suivante à parler plus largement du mouvement des Lumières. En effet, ce mouvement est européen et les philosophes des Lumières sont nombreux. Nous avons donc consacré une heure à lire des textes des différents philosophes principaux des Lumières, par exemple Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant ou Hume, afin d'en dégager les principales idées. Leurs idées sont nouvelles et très nombreuses. Les philosophes des Lumières critiquent la monarchie absolue, ils sont favorables au progrès et à la science, à la séparation des pouvoirs, à la tolérance dans le domaine religieux, à l'égalité devant la loi et les impôts, etc. Leurs idées vont se diffuser dans toute l'Europe grâce à leurs voyages, mais aussi grâce à leurs correspondances. Effectivement, les philosophes des Lumières s'envoient des lettres, et aussi principalement grâce à leurs livres, qui rencontrent parfois quelques succès. Être à l'origine d'idées nouvelles qui critiquent l'Église ou le pouvoir du roi n'est pas sans risque. La censure veille, et les philosophes vivent avec la menace constante de poursuites judiciaires ou même d'emprisonnement. Enfin, ces idées nouvelles vont se diffuser dans toute l'Europe grâce aux salons, aux cafés et aux académies. Il faut cependant comprendre que cette diffusion est limitée aux élites intellectuelles qui savent lire et que donc elles échappent à l'essentiel de la population de l'époque. Nous avons terminé ce deuxième chapitre par une troisième partie intitulée « Despotisme éclairé et contestation de la monarchie absolue ». En classe, nous avons pris l'exemple de Catherine II de Russie afin de comprendre ce qu'est le despotisme éclairé. En fait, au XVIIIe siècle, de nombreux souverains sont gagnés par les idées nouvelles des Lumières et veulent moderniser leur pays. C'est ça le despotisme éclairé. En France, la monarchie absolue est en crise et Louis XVI doit faire face à de nombreuses difficultés. Incapable d'y faire face et peu favorable aux idées nouvelles des Lumières, le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux. C'est la convocation de ces États généraux qui va provoquer plus tard la Révolution française, dont nous reparlerons dans le troisième chapitre de la séquence. Pour finir cet épisode, je vais vous donner quelques pistes pour la future évaluation sur l'Europe des Lumières. Je vous conseille très fortement déjà de travailler régulièrement et ensuite de vous appuyer sur votre fiche de révision. Cette évaluation sera relativement courte et ne portera que sur la leçon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura que quelques questions courtes sur la leçon, rien de véritablement difficile à rédiger ou pas de questions longues, donc rassurez-vous. Pour bien la réussir, cette évaluation, il faudra être au point sur les principaux concepts vus tout au long de la leçon. Certaines questions porteront sur les ordres de la société d'Ancien Régime. Pourquoi peut-on dire que cette société est inégalitaire? Il faudra également être capable d'expliquer ce que c'est qu'une monarchie absolue. Pouvoir parler de Diderot en quelques lignes, rappeler qui il était, quelles ont été ses principales idées, pourquoi est-ce qu'il est célèbre. Je vous demanderai également de me donner le nom de quelques philosophes des Lumières. Il faudra également être au point sur les principales idées des Lumières, sur les Lavoisier également, pour en dire quelques mots, et enfin être capable de définir ce qu'est un despote éclairé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos révisions, et je vous dis à bientôt.